Je vais vous proposer de regagner vos places. Là, est-ce que on peut
me retrouver, mais
bien, je vais proposer à Madame Maignan de procéder à l'appel.
Merci, Monsieur le Président. François André, Gaël Andreau, Nicolas Belloir, Thierry Benoît, Isabelle Biard, Armel Billard, Damien Bongard, Philippe Bonin, Frédéric Boursier, Jean-Luc Bourgeot, Vera Briand, Jean-Luc Chenu, Muriel Condol-Ferrec, Ludovic Coulombel, Anne-Françoise Courteil, Isabelle Courtinier, Marie Dogan, Jacques Daviaud, Claudine David, Catherine Debroise, Nadine Dréan, Béatrice Duguay-Pérou-Honoré, Michel Gauthier, Aymar de Gouvion-Saint-Cyr, Pierre Guiton, Sophie Guyon, Béatrice Acny-Robin, Marc Hervé, Louis Hubert, Haute de Lavergne, Didier Le Bougeon, Isabelle Le Callennec, Anne Le Gagne, André Lefeuvre, Pierre-Yves Mailleux, Bernard Marquet, Christophe Martins, Émeric Massier-Dubié, Yvon Mellet, Gaël Mestri, Solène Micheneau, Frédéric Miramont, Roger Morazin, Michel Motel, Louis Potrel, Franck Pichot, Marcel Rogemont, Sandrine Roll, Emmanuel Rousset, Monique Socat, François Sourdrille, Agnès Toutant, Thierry Travers.
Merci. Bon, si vous pouvez tous regagner vos places, il y a quelques jours, notre ancien collègue, Monsieur Joseph Tripon, nous a quittés brutalement. Et je remercie Madame Dréan de m'avoir immédiatement informé. Monsieur Tripon a bénéficié de la confiance de ses concitoyens et ça lui a permis d'exercer pendant 19 années trois mandats départementaux. Il a été vice-président de l'Assemblée de 2001 à 2004, président de la commission d'appel d'offres qu'il a géré avec beaucoup d'intensité et d'abnégation, membre de la commission permanente pendant près de 10 ans et il a en parallèle exercé des mandats locaux dans sa collectivité. J'ai eu l'occasion de le croiser de 2008 à 2011 dans cette assemblée et je crois que tous ceux qui l'ont croisé ont toujours apprécié son extrême courtoisie, sa bienveillance, sa convivialité. Il m'arrivait parfois sur le terrain de le retrouver dans telle ou telle occasion et c'était toujours l'occasion d'échanges par-delà nos différences, toujours placées sous le signe du respect de la courtoisie et puis d'une certaine générosité dans l'engagement. Alors au regard de tout ce qu'aura été son engagement au sein de ce territoire, au sein de l'Assemblée départementale, j'adresse bien sûr à sa famille, à ses proches, l'expression de toute notre compassion, de notre solidarité, et je vous propose de lui rendre hommage en observant une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais également rendre hommage à l'initiative prise par la ville de Rennes et qui fait que depuis quelques semaines, une place de Rennes porte désormais le nom de Jean Normand, aussi un de nos anciens collègues qui aura été une grande figure pendant 29 ans de cette assemblée départementale. Alors nous aurons une session particulièrement dense avec de nombreux intervenants et pour tenir dans ces deux journées qui nous sont imparties, je vous suggère d'ores et déjà de ne pas prendre d'engagement prématuré vendredi parce que je crois que nous aurons vraiment besoin de la totalité de la journée de vendredi pour venir à bout de l'examen de l'ensemble des dossiers inscrits et je crois que c'est une session qui, dont sa densité eh bien, montre aussi que nous sommes une collectivité en mouvement, une collectivité qui s'interroge aussi sur les perspectives et sur les meilleures réponses à apporter en matière de politique publique à nos concitoyens. Alors nous aurons tout d'abord, et Madame Debroise, présentera ce dossier, l'aboutissement de nos discussions sur le plan de lutte contre la pauvreté, déclinaison départementale. Bon, j'avais eu l'occasion de dire que nous aurions souhaité plus de moyens, bien sûr, eu égard aux ambitions affichées, mais néanmoins, il est dans l'ADN de la collectivité départementale d'être aux côtés de celles et ceux qui sont les plus défavorisés et que dès lors qu'il y a des moyens, même si je le redis, nous en espérions davantage, eh bien, il nous appartient de nous organiser, de nous mobiliser pour faire en sorte que nous puissions encore renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, mieux accompagner la petite enfance en mixité sociale, mieux accompagner également les sorties des différents dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et ce sera l'objet de ce rapport et hier, bonne nouvelle, petit pas, mais on nous a annoncé une notification complémentaire de 140 000 euros. Ce n'était pas prévu dans le rapport, mais on prend, bien évidemment, on verra s'il faut faire un avenant, mais on trouvera la solution. Mais dans ces cas-là, on trouve toujours des solutions lorsque l'on nous fait des propositions de cette nature. Nous aurons également la restitution du rapport de la mission qui était conduite par notre collègue Anne-Françoise Courtel, copilotée par Madame Monique Soca, mission qui avait pour objet d'évaluer la problématique de l'ensemble des personnes d'origine étrangère sur notre territoire. Et je crois qu'il y a eu un travail de qualité et nous en aurons la confirmation qui nous permettra d'avoir une vision, je crois, éclairée de cette problématique et de la situation sur notre territoire. Nous recevrons dès 11h ce matin Madame la Préfète et les services de l'État pour l'exercice, bon, à la fois traditionnel, mais je pense toujours nécessaire de la présentation du rapport d'activité de l'État dans le territoire, mais également temps d'échange avec les questions que certains d'entre vous ont adressées à Madame la Préfète, qui se fera bien sûr un devoir d'y répondre. Nous aurons en prolongement à 12h30, toujours un moment de plaisir partagé, nous retrouverons un certain nombre d'anciens collègues dans le cadre de l'amicale des anciens conseillers généraux et des conseillers départementaux pour leur assemblée générale, dont vous mesurez qu'en général le consensus est assez facile à établir et que c'est plutôt le partage et la convivialité qui prévalent en pareille circonstance. Puis parmi les rapports, je ne les citerai pas tous, mais notre collègue Damien Bongard nous fera état d'avancées, je pense, extrêmement significatives, positives pour l'accélération du déploiement du haut débit et du numérique sur tout le territoire. Et on sait à quel point il y a des enjeux forts pour les départements de relever le défi de la fracture numérique. Et je crois que vous aurez là des indications qui nous permettent de constater à la fois, bien sûr, le chemin qui reste à parcourir, mais dans des temps qui semblent devoir se contracter de façon significative. Et ce sera l'objet de ce rapport. Et puis, Monsieur Martins nous présentera, c'est la règle, avant le 30 juin, nous y sommes, notre compte administratif qui confirmera ce que nous disions au moment du vote du budget primitif, un rétablissement de notre situation financière, un retour vers une meilleure épargne nette à 72 millions. Nous étions les années passées autour de 45, 46, 47 millions, donc rétablissement significatif, une majoration de près de 10 millions de l'investissement, un désendettement de 30 millions, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'envisager avec une certaine confiance eh bien, les défis qui restent devant nous. Et puis, je dirais implicitement, nous serons en capacité de démontrer que nous échapperons aux pénalités financières de la contractualisation et nous y échapperons uniquement parce que nous avons négocié la neutralisation d'un certain nombre de dépenses. Je le redis, Et cette fois, nous avons les chiffres détaillés. Si nous avions suivi certains, eh bien, pas de contrat, pas de neutralisation, 2 800 000 euros de pénalité. Il n'en sera rien. Nous avons pris toutes nos responsabilités l'an passé pour négocier jusqu'au bout et je crois que la démonstration est faite que c'était la bonne posture. Nous n'aurons pas de pénalité malgré la difficulté et pour autant, nous n'avons pas sacrifié les politiques publiques auxquelles nous tenions le plus. Et puis, une actualité nationale, j'en dis juste quelques mots. Il se trouve que les événements se sont enchaînés depuis mardi soir. Je faisais partie de la délégation de 3 présidents de département reçus par 3 ministres à Bercy, Monsieur Darmanin, Monsieur Lecornu, Madame Gouraud, qui nous ont exposé les orientations nationales. Ils le font avec l'ensemble des blocs de collectivités, donc régions, intercommunalités, associations des maires de France, différentes associations d'intercommunalités sur la réforme fiscale. Donc les annonces qui nous ont été faites confirment la rumeur qui devenait extrêmement présente du transfert de la taxe sur le foncier bâti vers le bloc communal, de la mise en place pour les départements, l'orientation c'est son remplacement par une fraction de TVA à l'identique pour chaque département, une TVA dont les modalités d'indexation serait à négocier pour garantir une dynamique de progressivité, également une garantie de non-baisse en cas de difficulté et de ralentissement de l'activité économique, parce qu'on sait que la TVA est très sensible à l'activité économique. Le coût du transfert du foncier bâti pour les départements, c'est 14 milliards d'euros. Les ministres ont indiqué qu'ils avaient une latitude de négociation pour compenser au-delà pour les départements, pour apporter une contribution à la prise en charge des AIS et des mineurs non accompagnés. Alors tout ceci, bien sûr, devant ouvrir le champ à une négociation, bon, à laquelle je serai sans doute conduit à participer assez régulièrement. Alors tout est dans les détails, hein, vous l'imaginez, l'indexation, l'année de référence, les dynamiques, les écrêtements, le déclenchement. Mais voilà où nous en sommes. Et par ailleurs, les ministres nous ont confirmé que le gouvernement était disposé à réouvrir le dossier de la majoration de 0,2% des droits de mutation, ce qui semblait acquis l'année dernière et avait été retiré. Au dernier moment, pour les départements, c'est un enjeu majeur car ça représenterait une capacité de partager, notamment vers les départements les plus en difficulté, à peu près 400 millions d'euros supplémentaires. Donc, point là aussi qui est mis dans la discussion globale. Ça, c'était donc mardi soir et hier, nous avions à la fois le bureau et l'Assemblée générale de l'ADF. Et à l'issue de 6 mois de discussion au sein de la Commission des finances, le principe d'une fusion en un seul fonds des 3 fonds de péréquation DMTO, les 2 qui préexistaient, le fonds d'urgence créé l'an dernier à hauteur de 250 millions, a été acté. Nous aurons donc un fonds unique de 1500 millions d'euros qui pérennise le fonds exceptionnel de l'an passé à 250. Alors un fonds où il y aura davantage de proportionnalité qu'avant, ce qui fait que les départements les plus riches en DMTO contribueront. Une dizaine de départements vont apporter 220 millions de plus aux autres. Alors naturellement, je ne vous cache pas que ceux-là ne sont pas contents. Alors parmi les mécontents, il se trouve qu'il y a la ville de Paris. Mais il y a également les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes, les Yvelines, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Savoie, la Gironde, il y en a 2 qui sont à gauche et 8 qui sont à droite, pour tout vous dire sous cet angle-là, mais le vote a eu lieu et un seul de ceux qui n'étaient pas contents a voté contre, les autres se sont abstenus ou étaient absents, donc la résolution a été adoptée à l'unanimité moins une voix. Elle servira donc de base à la discussion pour la loi de finances de l'an prochain. Je crois que c'est une avancée extrêmement importante pour les départements de pouvoir mettre en place une consolidation sur 1,5 milliard d'euros de péréquation horizontale et que cela va sans doute nous aider dans d'autres discussions avec l'État, car nous aurons donné l'exemple en montrant que nous étions capables d'aller au bout d'une logique, y compris douloureuse pour certains des deux côtés de l'échiquier, pour certains de nos amis, qui trouvent que l'addition est un peu forte. On peut, dans certains cas, en convenir, mais on ne peut pas faire plus de péréquation sans prendre davantage à ceux qui ont le plus. Ça, je crois que la mécanique, elle est un petit peu inéluctable, même si je mesure bien qu'il y a des limites aussi à l'acceptabilité de tout cela. Donc voilà, quelques informations, je dirais, pratiquement de première main de ce qui s'est passé entre mardi soir et hier après-midi. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention au nom des groupes ? Alors, Madame Le Callennec, Monsieur Colombel. Alors, Madame Le Callennec.
Oui, merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir rendu un hommage appuyé à notre ancien collègue Joseph Tripon. Notre session de juin est, entre autres, celle de l'examen du compte administratif et de la première décision modificative de l'année. Elle sera également celle de la présentation du rapport de la mission d'information et d'évaluation dont notre groupe de l'Union de la droite et du centre a demandé la création en septembre dernier. Une mission qui s'est intéressée pendant 6 mois à la politique d'accueil des personnes d'origine étrangère du département, les familles avec enfants sans accès aux droits et les mineurs non accompagnés. Nous remercions nos collègues de la minorité comme de la majorité qui ont participé à cette mission visant à objectiver les faits. Ils se sont documentés, ils ont auditionné et avec l'aide des services, ont produit un rapport très fourni qui va nous être présenté. Un rapport dont je dois dire que le dernier paragraphe est pour le moins partagé. Pour endiguer cette évolution, l'évolution c'est la hausse continue du nombre de personnes prises en charge par le département, la mission pense que notre pays ne pourra faire l'économie d'engager une véritable réflexion sur la politique migratoire et ses conséquences en termes d'accès aux droits, d'intégration et d'urgence sociale. Nous avons envie de rajouter accès aux droits et aux devoirs. Notre mission souhaite donc que la collectivité départementale s'en fasse l'écho auprès du gouvernement et du législateur, et vous avez là-dessus notre total soutien. Nous avons même pensé dès ce jour interpeller la préfète, qui va nous rejoindre en fin de matinée, et que nous tenons à interroger sur le sujet précis des mineurs. Dans un département comme le nôtre, où près de 75% des jeunes se présentant comme mineurs sont en réalité évalués majeurs par nos services, nous pensons que ce devrait être à l'État de prendre en charge la période d'évaluation. Ou qu'à tout le moins, il rembourse au département la totalité du coût qui, de fait, ne devrait pas lui incomber. Le département doit et sait assumer ses compétences en matière de protection de l'enfance, y compris vis-à-vis des jeunes d'origine étrangère. Mais il n'a pas à se substituer à l'État qui doit, une fois de plus, assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, que deviennent ces jeunes qui sont évalués majeurs? Comment les services préfectoraux les prennent-ils en charge? Que se passe-t-il pour les déboutés du droit d'asile? Les élus locaux et les associations que nous rencontrons sur le terrain, elles ont besoin aujourd'hui de plus de lisibilité pour répondre à l'urgence de certaines familles qui se présentent parfois sans ressources et parfois sans logement. C'est une question que nous poserons à la préfète. Mais nous avons aussi une question pour vous, Monsieur le Président. Depuis le 31 janvier dernier, un décret autorise la création d'un fichier d'appui à l'évaluation de la minorité dans le but d'éviter le nomadisme de ces jeunes. Comme vous le savez, manifestement atteints par la limite d'âge, certains se déplacent, malgré tout, de département en département, jusqu'à ce que l'un d'entre eux les reconnaisse mineurs et les prenne en charge. Ce fichier ne peut être opérant que si tous les départements en adoptent le principe. Le département d'Ille-et-Vilaine est-il de cela ? Si nous posons ces questions avec insistance et depuis de nombreux mois, c'est parce que force est de constater que cette politique pèse lourd et de plus en plus sur les finances du département et des départements en général. Jugez-en. Au compte administratif 2018, la forte hausse des dépenses enfance-famille de 7,5 millions d'euros par rapport à 2017 est principalement liée à l'accueil des MNA, qui sont passés de 492 à 629 en une seule année, plus 27%. Dans la première décision modificative de l'année que nous examinerons demain, c'est de nouveau 4 millions de plus pour faire face à l'hébergement et à l'accompagnement de ces mineurs. À ce rythme, où allons-nous trouver des ressources financières pour faire face? Procéderez-vous à des économies sur d'autres budgets? Et si oui, lesquels? Vous ne pourrez bientôt plus augmenter la taxe sur le foncier bâti, puisque vous venez de le dire et de l'exposer, Monsieur le Président, le gouvernement avance sur sa réforme qui sera présentée au projet de loi de finances pour 2020. La taxe sur le foncier bâti deviendrait un impôt communal et les départements récupéreraient une part de la TVA. Alors, j'ai deux questions, Monsieur le Président, mais vous venez d'y répondre partiellement. L'ADF demande donc à l'État d'autoriser les départements à augmenter jusqu'à 0,2% le taux des droits de mutation. Est-ce que c'est une piste que vous examinez pour le département et quel serait l'impact réel de cette augmentation de 0,2% des droits de mutation, qui sont quand même déjà assez élevés? Et l'ADF, et vous l'avez dit, a également adopté une péréquation horizontale. Alors, vous nous dites de 1,5 milliard, mais dans le communiqué de presse de l'ADF, c'est 1,6. Et donc, vous nous parlez des départements les plus riches qui donc apporteraient leur contribution, mais quid de l'Ille-et-Vilaine? Est-ce à dire que nous bénéficierions, entre guillemets, de cette péréquation horizontale, alors que habituellement, le département d'Ille-et-Vilaine est plutôt celui qui donne, entre guillemets. Donc voilà mes deux questions. Enfin, et pour conclure, un mot sur le revenu universel d'activité qui est d'actualité. Le revenu de base que vous appeliez de vos voeux ne verra donc pas le jour. Point de loi d'expérimentation à l'horizon, mais une concertation de 6 mois sur le principe d'une fusion des minima sociaux devant se traduire par une loi en 2020. Quel minima fusionner? Quid des allocations personnalisées au logement? L'allocation adulte handicapé doit-elle être concernée? Qui seront les perdants? Qui seront les gagnants? Autant de questions qui se posent. Avez-vous été sollicité pour participer aux travaux? Peut-on imaginer mesurer les impacts des différentes hypothèses dans un département comme le nôtre? Il faudrait pouvoir travailler notamment avec la Caisse d'allocation familiale. En somme, l'Ille-et-Vilaine va-t-elle s'impliquer dans le débat? Et si oui, comment? Et juste pour terminer, un dernier point. Nous recevons la préfète en fin de matinée. Nous savons que son temps est contraint. Nous avons, mes collègues et moi, posé une vingtaine de questions à Madame la préfète. Donc je doute qu'elle ne puisse répondre à chacune d'entre elles. J'attire juste votre attention sur une des questions qu'on pose, qui est vraiment d'actualité et pour laquelle on souhaite vraiment une réponse, Monsieur le Président. C'est la question du dispositif argent de poche. Des maires commencent à recevoir des informations selon lesquelles on remettrait en cause l'exonération des charges qui pèsent sur la gratification qui est accordée aux jeunes. Et en fait, elle ne serait plus possible, cette exonération, que sur les territoires politiques de la ville, c'est-à-dire chez nous, Rennes, Redon et Saint-Malo. Ça veut dire que toutes les communes, et notamment les communes rurales, qui avaient eu l'habitude d'utiliser ce dispositif, qui donne vraiment satisfaction à la fois aux élus, mais surtout aux jeunes qui ont là une première expérience civique, ça voudrait dire qu'on le remettrait en cause. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, si au moins sur cette question, on pouvait avoir une réponse. Notre collègue Thierry Benoît a interpellé la préfète lundi dernier à ce sujet. Nous nous étions battus dans le mandat précédent législatif avec des députés de toute sensibilité politique, parce que déjà il y avait eu cette tentative de remise en cause de cette exonération. Donc moi j'insiste beaucoup, Monsieur le Président, pour qu'on obtienne de Madame la Préfète, parce que les textes ne sont pas du tout examinés de la même manière d'un département à l'autre. Et en Ille-et-Vilaine, régulièrement, il y a ce risque de remise en cause. Donc si on pouvait au moins avoir une réponse sur cette question-là, puisque l'été arrive, et c'est précisément pendant l'été que les élus locaux font appel à ces jeunes et que ces jeunes sont bien contents, puisqu'ils ont entre 16 et 21 ans, de pouvoir rendre service sur les territoires. Merci, Monsieur le Président.
Merci. Donc, je répondrai à quelques-unes de vos interrogations en conclusion. Monsieur Coulombelle.
33-1. 33-1, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du numéro du fascicule inscrit sur l'ordre du jour concernant la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté. Elle touche nombre de nos concitoyens qui sont contraints de vivre, ou plutôt de survivre, avec quelques centaines d'euros par mois. Cette situation de détresse sociale n'est hélas que trop peu reprise par les médias, qui préfèrent ne parler que de certaines conséquences de la misère, plutôt que d'en analyser les causes et les solutions. Concernant la pauvreté, quelques chiffres tout d'abord pour nous éclairer sur la situation actuelle en Europe et en France. 17,3% des Européens, soit 87 millions de personnes, vivaient sous le seuil de pauvreté en 2015 selon Eurostat. Avec 13,6%, le niveau de la pauvreté en France se situe parmi les plus bas d'Europe. Il est de 22,3% en Espagne, 20,6% en Italie, 16,5% en Allemagne, 15,9% au Royaume-Uni. Mais malgré ce taux de pauvreté plus faible que certains de ses partenaires européens, la France reste trop lourdement touchée. Selon les banques alimentaires, 2 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire sur le territoire national. Un bénéficiaire sur deux estime qu'il ne pourrait pas vivre sans, selon une étude publiée le 13 mars 2019. 71% des bénéficiaires de l'aide alimentaire disposent de moins de 1 000 euros pour vivre. Ces gens ne se retrouvent évidemment pas dans cette situation par choix, mais à cause d'une situation financière qui s'est progressivement dégradée. Avec un taux de pauvreté de 10,9% en 2015, l'Ille-et-Vilaine est un des départements les moins touchés. Les causes pouvant l'expliquer sont nombreuses, dynamisme économique, territoire attractif. Cette situation moins défavorable qu'ailleurs s'explique également par la poursuite depuis de très nombreuses années de politiques en faveur des solidarités humaines et territoriales au sein du département. Pour la majorité départementale, la lutte contre la pauvreté, ou devrais-je dire plutôt la lutte pour le progrès social, est primordiale. En effet, quel est l'objectif du département si ce n'est de sortir de la précarité les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur situation? Toutes nos politiques sont irriguées par cette volonté de lutter inlassablement contre les inégalités, et force est de constater que l'ordre du jour de cette session illustre cette idée. D'abord par le fameux fascicule 33-1, la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Le président de la République a présenté le 13 septembre dernier son plan pauvreté et proposé au département de contractualiser avec l'État afin de le mettre en application. Ce plan a le mérite de mettre en avant la question de la pauvreté. Au travers de nos politiques départementales, nous agissons pour permettre à chacun de se réinsérer et de trouver un emploi. Dans ce combat contre la précarité et ses conséquences dramatiques sur nombre de nos concitoyens, chaque euro compte. Aussi, à la proposition du gouvernement de signer cette convention, nous répondrons oui. Le contrat que nous propose l'État avance la somme de 600 000 euros pour 2019. C'est peu, et nous sommes bien loin du plan Marshall annoncé. Mais il est de notre responsabilité de prendre en compte l'ensemble des ressources qui pourront être allouées à éradiquer la pauvreté sur notre territoire. Parce que l'insertion, c'est aussi de nombreux acteurs associatifs qui s'investissent sans compter pour nos concitoyens les plus fragiles, nous, département, faisons le choix de soutenir ces associations. Et c'est dans cette volonté que notre collègue Catherine Debroise nous proposera également de voter des subventions pour le Secours Populaire, la Banque Alimentaire de Rennes et l'association Études et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire. Les politiques que nous portons sont imprégnées de ce combat contre la pauvreté et plus largement pour la solidarité et l'égalité. Comme vous le présentera mon collègue Damien Bangard, le département agit pour que le numérique soit un facteur d'égalité territoriale et d'égalité sociale. D'abord par le déploiement de la fibre sur tout territoire brétilien, mais aussi par sa politique inclusive à destination des bénéficiaires de nos politiques d'insertion. Toujours dans cette volonté chevillée au corps d'agir, Franck Pichot soumettra au vote de cette Assemblée une nouvelle tarification des services de restauration des collèges qui se veut plus solidaire avec un soutien financier direct aux élèves boursiers. Comment évoquer la solidarité sans faire mention de notre politique à destination des mineurs non accompagnés qui va faire l'objet d'un rapport co-présenté par nos collègues Anne-Françoise Courtin et Monique Socat. Ce rapport sera suivi de la MDPH qui souligne là encore la volonté du département d'agir pour tous. Nous aurons à nous prononcer sur les politiques de logement en matière de renouvellement urbain à Saint-Malo, présentées par Emmanuel Rousset. Ces opérations s'inscrivent pleinement dans une politique de lutte contre la pauvreté en agissant notamment contre la précarité énergétique. Nous portons le combat également de nos politiques facultatives, mais essentielles pour la solidarité au sein du département. Parce que la culture portée par notre collègue François Sondry est un moyen de lutter contre l'exclusion inhérente à la pauvreté, Nous finançons de nombreux événements culturels sur l'ensemble des territoires du département. Je pense notamment, par exemple, à la tournée départementale du Théâtre National Breton. Nous agissons aussi au travers du sport avec notre collègue Frédéric Boursier. On peut faire ici écho aux 140 000 euros de financement par le département pour les coupons sport et à l'action des animateurs sportifs du conseil départemental à destination des personnes en situation d'insertion. Vous le voyez, à travers notre ordre du jour, le département agit dans nombre de ses politiques pour combattre la pauvreté et réduire les inégalités. Parce que lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre la marginalisation, l'exclusion et le désespoir. Il est de notre devoir, en tant qu'élu de la République et en tant qu'humaniste, de poursuivre inlassablement ce combat. Aussi, je terminerai par une citation qui, je trouve, traduit pleinement le sens de l'action départementale. « Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de charité, mais un acte de justice. » Nelson Mandela.
Merci, Monsieur Colombel. Alors, juste rapidement, quelques réponses, parce qu'un certain nombre de sujets, nous le retrouverons dans le corps des débats à venir. Alors, bon, Madame Le Callennec, déjà, au niveau de la méthode, merci d'avoir désormais une méthode qui consiste à me poser des questions avant de commenter les réponses. Mais c'est une bonne démarche, donc je vous en donne acte et je vais donc essayer de répondre aux 3 ou 4 questions que vous m'avez posées. Et puis par ailleurs, par contre, vous me prêtez des pouvoirs là qui objectivement sont un petit peu au-delà des miens, notamment de dicter à la préfète les questions qu'elle devrait traiter en priorité. Mais on essaiera de voir ce qu'il est possible de faire, mais sans engagement de résultat, parce que ce serait excessif de ma part. Alors, sur la question du fichier, je pense qu'il y a une confusion qui est en train de s'installer, qui laisserait à penser que le fichier serait la clé du problème. Le fichier n'est qu'une entrée marginale de la problématique des MNA, parce que, en toute hypothèse, ce qui compte, c'est la déclaration de minorité. Et les effectifs accueillis sont définis au niveau national dans le cadre d'une péréquation des effectifs uniquement des jeunes déclarés mineurs. Donc, je dirais, indépendamment de ce dispositif de fichier, les enjeux budgétaires et d'accueil demeureront, parce que les perspectives sur l'ensemble du territoire national, et ne nous voilons pas la face, les perspectives d'accroissement encore important du nombre de jeunes qui seront reconnus mineurs et qu'il nous faudra donc accueillir dans le cadre de cette péréquation nationale, je dirais que le fichier sera sans incidence sur ce point. Sur la question du fichier tel qu'il a été annoncé, il pose une série importante de difficultés de mise en œuvre, alors à la fois de modalités techniques et de modalités de fond. En entretenant le dispositif qui est mis en place, n'est pas celui que demandaient les départements. Les départements demandaient que la phase d'évaluation soit pleinement prise sous la responsabilité de l'État. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Et il nous place dans une situation de porte-à-faux dans l'exercice de 2 missions. Une, la mission fondamentale de protection et de mise à l'abri. Et nos travailleurs sociaux, nos équipes sont fondamentalement attachés à cette mission. C'est ce métier qu'ils exercent et c'est leur éthique, leur commande d'être dans ce cœur de mission. Et du coup, on nous fait potentiellement, en tout cas, porter des responsabilités qui relèvent de la gestion des flux migratoires, qui sont des responsabilités de type étatique. Et ce n'est pas un simple débat conceptuel, ça touche vraiment à des fondamentaux de renvoyer vers les équipes, parce que très concrètement, ça voudrait dire que ce seraient les équipes du département qui prendraient en charge, conduiraient en préfecture ou ailleurs les jeunes demandeurs pour rentrer dans ce cadre-là. Alors, nous avons déjà des mobilisations d'un certain nombre qui nous disent que ce n'est pas le cœur de métier. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons attentifs à ces équipes qui font un travail absolument remarquable, en pression et qui sont en fragilité. Par ailleurs, le dit décret fait l'objet de contentieux de recours. Alors, il y a eu un premier référé, certes, qui a été rejeté. Mais il y a un recours au fond. Et ce recours est apparu suffisamment sérieux au Conseil d'État, et le Conseil d'État, jusqu'à Nouvel Ordre, ce n'est pas un collectif ou de groupuscule d'activistes. C'est le Conseil d'État, la plus haute assemblée juridictionnelle. Eh bien, le Conseil d'État a saisi le Conseil constitutionnel d'une question préalable de constitutionnalité en invoquant une interrogation forte sur un point. J'ai donc pris la décision d'attendre la décision du Conseil constitutionnel pour voir selon quelles modalités et conditions on pourrait rentrer dans un dispositif de déploiement. Alors, les décisions du Conseil constitutionnel en matière de ce qu'on appelle les QPC sont relativement rapides, c'est sous 3 mois en général. Donc, d'ici la fin de l'été, nous devrions avoir une décision du Conseil constitutionnel. Il me semble important d'avoir cet éclairage pour savoir si effectivement les choses sont dans un cadre conforme aux règles fondamentales de la République, avant de s'engager, parce que objectivement, il reste des zones d'ombre. Et d'ailleurs, c'est l'analyse du Conseil d'État de dire qu'il y a des points d'interrogation qui justifient la saisine du Conseil constitutionnel. Donc voilà la réponse que je fais. Ce n'est pas une position définitive, c'est une position d'attente et d'attente sur des délais courts. Mais je redis qu'en toute hypothèse, ce n'est pas cette question-là qui réglera la question de fond, et vous évoquiez notamment l'impact budgétaire, fichier ou pas, l'impact budgétaire sera là et il nous faudra y faire face d'une façon ou d'une autre. Alors vous avez posé différentes questions sur la réforme fiscale, bon je crois que beaucoup d'éléments, bien on nous dit ouverture de négociations. Je crois que l'ensemble, à l'unanimité, l'ADF a dit que ces ouvertures, il fallait les pousser au maximum, donc il y aura dans les jours qui viennent des contacts techniques, sans doute des contacts plus politiques avec les ministères pour voir quelles garanties de non-baisse, quel plafonnement, jusqu'où quand on nous dit plus que les 14 milliards 2, est-ce que c'est 14 milliards 3, ce qui serait pas beaucoup, est-ce que c'est 15 milliards, ce qui serait tout à fait différent pour de nombreux départements. Alors l'impact de la majoration des MTO, on peut l'évaluer à 5 à 6 millions d'euros pour l'Ille-et-Vilaine, 0,2 points, peut-être un peu plus avec la dynamique actuelle, mais bon, prenons une hypothèse prudente. Au moins, je pense la quasi-totalité des départements l'adopteront. Aujourd'hui, sur les 102 départements, 98 départements sont au taux plafond. 98 sur 102, donc vous voyez bien que ça transcende très largement les courants, parce que d'ailleurs, comme il y a plus de départements qui ne sont pas de sensibilité de gauche que de droite, c'est eux qui font la majorité finalement dans ce domaine-là aussi, et que le principe de toute façon serait le prélèvement sera sur la base taxable. Donc à la limite, un département qui ne majorerait pas, il sera taxé comme s'il avait majoré. Alors, à part certains peut-être extrêmement riches diront « peu importe, je mets au pot commun sans majorer le taux », mais là, ce sera un prélèvement net sur ces recettes actuelles. Mais c'était le cas du deuxième dispositif, et c'est comme cela que ça avait fonctionné. Mais les départements, de toute façon, qu'ils majorent ou pas, seront prélevés. Donc, très clairement, dans la logique et la situation qui est la nôtre, nous nous calerons sur l'immense majorité des départements qui utiliseront cette possibilité qui correspondait à une revendication extrêmement forte hein, depuis plus d'un an et dont nous avions regretté le retrait unilatéral par le Premier ministre. À la suite d'un incident apparemment assez vif à la fin de l'Assemblée générale de l'an passé. Alors, vous avez également évoqué les conditions de la péréquation. Objectivement, la réforme de la péréquation sera positive pour l'Ille-et-Vilaine parce que il y a deux aspects. Il y a ce que l'on prélève et ce que l'on redonne. La restitution des trois fonds est stable, elle ne sera pas changée. Donc nous serons toujours à règles identiques. On nous restituera donc, comme aujourd'hui, que 6 millions. Mais la très grosse différence, c'est qu'au lieu de nous en prélever 19, on nous en prélèverait plus que 12 ou 13, parce que nous ne faisons pas partie des départements très très riches. Nous sommes peu de choses à côté de la ville de Paris ou des Hauts-de-Seine. Ce qui fait que nous aurions une moindre contribution et donc du coup un gain net en l'état de 6-7 millions de moindre effort, et il me semble que c'est une bonne nouvelle pour notre territoire. Voilà les quelques éléments, et puis d'autres éléments viendront bien sûr dans le cours du débat. Alors, nous allons lancer...